Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Parlons Foot Fréquence Tillé 97.9 FM. Je suis en présence de Enzo et Valentin, bonjour.
Bonjour.
Au sommaire, on va parler du Borussia Dortmund qui a enchaîné avec un nouveau revers. Le FC Barcelone qui s'est imposé contre le Real. Alors le Barça est-il déjà champion? Benitez, quel bilan? Lui qui est sur la sellette mais plutôt soutenu pour l'instant par son président. Marseille dans et ce jusqu'à la fin de la saison ou pas après cette dernière victoire. Le GFC d'Ajaccio qui a remporté le derby. Et puis on parlera donc de Ligue des Champions avec l'élimination lyonnaise, la Ligue Europa qui se jouera ce soir, quelques paris avec des cotes très intéressantes. Et on terminera, durant l'émission, nous aurons Eric Chambron, entraîneur de l'ASUS, que nous n'avons pas réussi à avoir la semaine dernière et qui répondra volontiers à nos questions, donc dans 2 minutes. Alors, on va commencer par le championnat allemand, avec le Borussia Dortmund qui s'est encore une fois incliné, et cette fois-ci, c'est 3-1 face à Hambourg. Donc, le Borussia peut-il suivre encore le Bayern?
Le Bayern, cette année, ils sont stratosphériques, donc ils pourront pas les suivre. Après, ils peuvent rester à 3-4 points à l'affût, quoi. Mais on connaît déjà le champion d'Allemagne, c'est le Bayern.
Pour moi, le Borussia ne suit plus le Bayern Munich depuis qu'ils ont perdu 5-1. Alors, de la défaite à l'Allianz Arena les a tués. Puis c'est pour ça que depuis, ils enchaînent les défaites.
Il y a la Ligue Europa qui est quand même là pour les relancer.
Oui, mais bon, après, en Allemagne, c'est pas les mêmes équipes que la Ligue Europa.
Ça reste le favori de cette Ligue Europa?
En attendant, les équipes qui descendront de Champions League, c'est le favori avec Naples, avec la FIO.
Ça reste le favori. Aussi, qui fait un très bon début de saison.
Puis peut-être aussi Monaco, qui est quand même qui joue en Ligue des Champions l'année dernière, non?
Ouais, mais Monaco, c'est moins fort que l'année dernière.
C'est moins régulier, certes. Donc voilà, donc pour le championnat allemand et puis le Bayern de Munich qui s'est encore imposé. Le Barça est-il déjà champion après sa victoire 4-0, c'est cela, contre le Real de Madrid, défaite qui fait mal.
Défaite qui fait mal pour le Real, oui, ça c'est sûr, puis victoire qui fait du bien pour Barcelone. Mais après je sais pas s'ils sont déjà champions, il y a que l'Atlético qui a profité de la défaite du Real pour
4 points du coup.
Bon voilà, ils ont pas encore joué le Barça.
Ils l'ont déjà joué, il s'est incliné.
C'est incliné, mais bon, après, il va falloir qu'ils exploitent toutes les failles que va avoir le Barça cette année.
Et c'est ce qui fait la beauté de la Liga, c'est qu'on est sûr de rien. Comme l'Atlético, qui les voyait finir premier il y a 2 ans, le championnat n'est pas plié.
Je reformule ma question, du coup, est-ce que le Real peut-il encore être champion?
Ce que j'allais dire, le Barça ne sera peut-être pas champion, mais le Real ne le sera pas.
S'ils continuent avec le même jeu, ils ne le seront pas.
Sauf qu'ils restent comme ça ou qu'ils changent d'entraîneur, ils ne seront pas champions.
Alors justement, le bilan de Benitez, qu'en pensez-vous sérieusement?
Alors on l'a vendu comme étant un entraîneur offensif. Pour l'instant, le Real ne marque pas beaucoup de buts.
Ils en encaissent pas beaucoup.
Mais on l'a vendu comme étant un entraîneur offensif. Aujourd'hui, le Real ne marque quasiment pas de buts.
Mais là, le dire tout de suite qu'il faut le licencier juste parce qu'il a perdu Séville et le Barça.
Après avoir enlevé Ancelotti.
Oui, mais là, il a gagné 4-3 contre. Mais il y a même 4-0 contre le Shakhtar. On va le dire, non, faut le garder.
Nous reviendrons dessus justement par rapport au match du Shakhtar en Ligue des Champions. Et on va passer avec Eric Chambron. Bonjour Eric Chambron.
Et bonjour.
Valentin, Enzo et moi-même allons vous poser donc quelques questions.
Oui.
Tout d'abord, après le match de Coupe de France perdu face à Laval, quel est votre sentiment?
D'abord un sentiment plutôt positif, parce qu'on a réussi à les tenir en haleine et les inquiéter jusqu'au bout, même si on a été largement dominé dans les 20 premières minutes. Malgré tout, on a fait une très très bonne deuxième mi-temps. On a 3 fois la balle de 2 partout. C'est quand même une performance quand on joue une équipe de Ligue 2. Satisfait de la performance sportive, un petit peu déçu parce qu'il y avait sûrement de quoi faire l'espoir. Il a manqué peut-être un soupçon de réalisme et de chance. Après, autour du match a été une grande réussite, beaucoup de spectateurs. C'était le lendemain des événements de Paris, donc une ambiance assez familiale. Donc ça reste un très très bon souvenir, mais un tout petit sentiment de frustration par rapport au fait qu'on aurait sûrement pu créer l'espoir. Il y avait peut-être le scénario pour créer vraiment l'espoir.
Notamment sur votre premier but encaissé, qui est un peu malchanceux, un défenseur, un attaquant lavallois qui n'est pas marqué.
Ouais, c'est pas mal chanceux, c'est juste une erreur de notre part. J'avais attiré notre attention sur les corners, on savait où le ballon menait, comment il fallait se passer, on avait mis tout un protocole en place. Et le contexte de ces matchs-là, c'est qu'il y a un peu plus de pression que d'habitude et les garçons mettent un peu de temps à entrer dans le match. Et là, au bout d'une minute 28, je crois, certains de mes garçons n'étaient pas encore dans le match, ce qui fait qu'il y a trois placements hasardeux de mes joueurs sur le corner et ça fait que Julien Vial se retrouve tout seul au deuxième poteau alors qu'en théorie il devait être au marquage. Donc voilà, mais ce but-là, il mérite de nous garder dans le match malgré tout. C'est vrai qu'en revenant à 2-1 à la mi-temps, on regrette d'avoir pris ce but-là, mais peut-être que ça nous a permis de nous libérer un petit peu. Donc voilà, c'est malheureux de prendre un but si tôt parce que tous les entraîneurs redoutent ces buts pris d'entrée parce que ça plombe souvent les matchs. Mais peut-être que nous, ça a été un mal pour un bien.
Alors dites-nous, vous qui étiez là il y a quelques années, quand la Suze avait déjà affronté Laval, éliminé un but à zéro en prolongation, et oui, certains de vos joueurs ont été présents aussi il y a quelques années, quelle a été l'équipe la plus compliquée à affronter, et finalement, quelle est la plus impressionnante entre le Laval d'il y a quelques années et le Laval de cette année?
Très difficile de répondre à votre question. Il y a 4 ans, Laval avait évolué à 10 pendant une heure. L'Intero s'était fait expulser à la 38e minute, je crois. Il me semble que mon équipe était différente. Il y a 4 ans, j'ai eu beaucoup plus de maturité. On était sur la première année de CFA2 où l'équipe sortait de DH en ayant largement dominé le championnat DH. On était sur une dynamique très très positive, capable de marquer des buts à n'importe quelle équipe. Cette année, j'ai senti une équipe lavalloise un peu plus timorée en deuxième mi-temps, mais moi mon équipe n'est pas la même, elle est encore immature, on a encore besoin de travailler en maturité, donc c'est difficile de comparer. Je pense qu'il y a 4 ans on avait entrevu l'espoir puisqu'on était à 0-0, on avait pris le but à la 105e minute dans les prolongations en ayant frappé le poteau et la barre à 0-0. Malgré tout, je pense que cette année, il y avait encore plus de chances de créer l'espoir, même si sur certaines séquences, on a vu beaucoup plus de différence entre Laval a largement dominé les 20 premières minutes, mais ce qui s'appelle largement dominé. Mais malgré tout, malgré cette contradiction, je pense que cette année, il y avait vraiment le coup à faire.
Quel bilan faites-vous de votre parcours en Coupe de France ?
Tous les parcours, c'est ma 13e saison, c'était la 7e fois qu'on était au 7e fois qu'on était au 7e tour. Et par nature, sur une journée sur le championnat, on a du mal à tirer des conclusions en la relation entre la Coupe de France et le championnat. Par contre, dans la vie d'un club, tous ces matchs de Coupe de France marquent le club. C'est-à-dire que ça se passe sur le terrain, mais autour du terrain, les dirigeants, les bénévoles, les supporters garde un formidable souvenir pour tous nos dirigeants, nos supporters. Lyon, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Et donc la Coupe de France amène ce petit plus en termes d'émulation, de fraternité. Et donc ça reste gravé dans les images du club. Alors qu'une saison dominée, même quand on est monté en CFA2 avec notre équipe DH, ça reste un souvenir, mais ça n'a pas la même prestance.
Et quels sont vos objectifs pour cette saison ?
Notre objectif, l'an dernier on a fini deuxième alors qu'on n'envisageait pas la deuxième place. On a été plusieurs fois à la 23e, 24e, on était en CFA2. Donc on s'y est pris un peu au jeu. Après, si on veut avoir toujours l'ambition, il faut toujours avoir l'ambition de faire mieux. Quand on finit deuxième, forcément faire mieux c'est premier. Après, je suis pas persuadé que ça soit que la première place et la montée en CFA2 soit en équation avec notre projet, la maturité de notre projet. Donc finir dans les 5 premiers, ça sera très bien. Et puis si on peut titiller le premier le plus longtemps possible, ça sera bien. Mais déjà finir dans les 5 premiers et que je puisse intégrer des jeunes qui ont 20 ans, qui sont nés en 96, 97, que je puisse les intégrer en équipe DH pour les amener à maturation et faire que qu'il soit performant dans les deux prochaines années.
Alors on va en reparler juste après justement de la DH, mais Valentin avait encore une question à vous poser sur le match.
Oui, vous avez dit que vous avez fait une bonne deuxième mi-temps contre Laval, et est-ce que cette mi-temps vous a servi pour le match contre La Flèche, qui est quand même une bonne équipe de DH?
Oui, là je suis d'accord avec vous. Il me semble que le jeu qu'on a développé en deuxième mi-temps contre Laval, on a repris les mêmes bases contre La Flèche, parce que même si on a été mis en difficulté par La Flèche, par leurs attaques rapides et puis la maturité de leurs attaquants, ils ont un vrai potentiel offensif. Nous, il me semble que dans la construction du jeu, dans la maîtrise du jeu, on leur a été supérieurs. Et oui, effectivement, ça faisait partie de la suite logique de ce qu'on avait démontré contre Laval en termes de conservation de balles et de jeu avec nos fondamentaux.
Alors justement, le match de La Flèche, donc vous les avez joués le week-end dernier. Et oui, donc ça s'est soldé par le match nul de 1 but partout. Quel est votre ressenti sur ce match?
Le ressenti, c'est qu'on peut, on s'est fait contrer dans le premier quart d'heure. On savait qu'il fallait pas qu'on perde des ballons parce qu'on alimentait leurs attaques rapides. Donc on prend un premier but, ils ont l'occasion de mettre le deuxième sur deux grosses occasions. Donc il y a un échec puis un arrêt de mon gardien. Ensuite, le fait qu'on soit procuré beaucoup de coups francs à une trentaine de mètres, ça voulait dire qu'on était dangereux. On a réussi à concrétiser sur un. Voilà, le match nul n'est pas illogique. Je pense que chacun aurait pu gagner le match, même si en début de match, c'est vrai que La Flèche a eu plus d'occasions nettes que nous et aurait sûrement pu tuer le match à ce moment-là. Mais je pense que c'est une bonne performance et ça démontre que mon équipe n'est pas si loin que cette équipe de La Flèche qui domine le championnat DH depuis le début de saison.
Donc est-ce que vous pensez finalement que La Flèche mérite cette première place ou est-ce que vous avez affronté plus dur depuis ce début de championnat?
Non, la flèche pour l'instant, ils ont annoncé la couleur, ils ont gardé l'effectif, ils ont renforcé là où il fallait. Ils ont un projet clair et net, c'est d'accéder au CFA2. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux et je pense que pour bien connaître le championnat, je ne pense pas qu'on rencontre d'équipe supérieure à La Flèche cette année. Voilà, malgré tout, le championnat c'est très très long. Là, on attaque le championnat d'hiver où les dés sont un peu redistribués puisque les terrains vont devenir lourds, les conditions de jeu un peu différentes. Donc on aura sûrement le temps d'en reparler au printemps prochain parce que mine de rien, ça se joue toujours au printemps. Et donc pour l'instant, La Flèche présente les meilleures garanties pour postuler à l'accession, mais il peut encore se passer plein de choses entre maintenant et puis le mois de mai.
Même si on sait que comme vous échangez la saison passée qui avait dominé le haut de tableau du championnat, ça s'annoncera donc du coup compliqué pour les équipes de rattraper La Flèche qui domine depuis le début de saison.
Oui, même si nous on avec nos 6 victoires consécutives on a eu 8 points d'avance. Il me semble qu'à cette période dans novembre on avait changé avec 14 points de retard sur nous. Ça ne nous a pas empêché de finir avec 3 à la fin. Alors que nous on a perdu en seconde phase, on a dû perdre 2 fois et faire 2 nuls, je crois. Donc ça veut dire que ça peut paraître beaucoup de retard, il y a toujours des résultats surprises vers la fin de championnat, des équipes qui veulent se maintenir, d'autres équipes qui lâchent parce qu'elles sont maintenues. Donc il y a plein de paramètres à intégrer pour attendre le résultat des courses et le classement final. C'est vrai que par rapport au début de saison de La Flèche, rattraper 3 victoires sur cette équipe là pour l'instant, ça semble très très compliqué à l'instant T.
Et est-ce que le niveau de votre équipe est égal à certaines équipes de CFA2?
Sur un match peut-être, mais ce qui fait la difficulté du championnat CFA2, c'est d'abord le rythme de jeu et l'enchaînement des matchs. Donc peut-être que sur un match, on est capable de se mettre au niveau. Après, sur un enchaînement, c'est hors de question. On voit ce que le championnat CFA2 demande, on voit la qualité des effectifs de Sablé et du Mans FC et on voit les difficultés qu'ils rencontrent tous les week-ends, mais y compris le week-end dernier. Donc faut surtout pas penser des choses qui sont pas vraies. Faut rester très très lucide. Le championnat CFA2 c'est autre chose. Il faut être armé en effectif, il faut être capable d'avoir tous les postes doublés de façon à pouvoir faire une rotation et pas affaiblir son équipe. Donc oui, sur un match on est capable puisque l'an dernier on a sorti Sablé en Coupe de France sur un match où on a été largement au niveau, mais après la répétition des performances c'est trop de choses.
Alors justement, vous nous parlez du Mans,
Et il y a une équipe qui a affronté Le Mans cette saison dans votre championnat, c'est Saint-Saturnin. Elle a même affronté les deux équipes du Mans. Et je vous avoue qu'on est un peu impressionné car elle arrive à battre donc l'équipe 1 et s'incline 4-0 contre l'équipe 2. Cette équipe de Saint-Saturnin est-elle une équipe finalement en rebondissement ?
Ouais, c'est une équipe qui a aussi un vécu de Coupe de France. Donc il y a quelques garçons qui ont participé à plusieurs épopées de Coupe de France. Et la Coupe de France, c'est, ce sont des matchs où il faut s'engager à 100% ou même 120% sur le match. Et quand on lâche rien, on a toujours une chance d'exister. Le Mans a archi dominé, si j'ai bien compris, sur ce match de Coupe de France. Le Mans a archi dominé pendant les 20 premières minutes, pouvant tuer le match. Ils l'ont pas fait en marquant seulement un but. Et puis après, ça c'est la magie de la Coupe de France. Hein, la pression, l'ambiance, les spectateurs font que il y a une équipe qui est capable de se sublimer et puis l'autre équipe qui commence à douter. Et donc forcément, ça donne la surprise qu'on a connue. Après, le fait qu'ils aillent perdre contre la réserve la semaine d'après, ça ne m'étonne pas du tout, parce que presque naturellement, il y a un sentiment de relâchement. Et c'est un tout autre match. Et si on l'aborde de la même façon, c'est sûr qu'il est perdu. Donc là, ça a été clair et net.
Alors, on a deux petites questions avant de terminer donc cette interview. On se demandait justement. Que devient votre buteur? C'était Antoine Pichot, je crois.
Non, Nicolas Pichot.
Nicolas Pichot, je me trompe à chaque fois. Nicolas ouais. Pichot, il me semble, ne fait plus partie de votre effectif.
Alors, Nicolas Pichot, il a pris une année sabbatique l'an dernier. Il a arrêté parce qu'il est devenu papa d'un deuxième enfant. Il s'est interrogé en début de saison pour reprendre une licence parce que ça lui manquait. Et puis... ces impératifs familiaux font que ça c'est plus trop compatible avec une vie de sportif qui doit s'entraîner 3 fois par semaine, donc il a préféré ne pas re-signer. Mais on peut dire qu'il a la retraite, mais je pense que le ballon lui manque. Bon, peut-être qu'il reviendra un jour, mais pour l'instant il est en situation de semi-retraite au niveau football.
Alors du coup, comment se nomme votre nouveau buteur à la Suze?
J'en ai pas parce que des joueurs comme Nicolas Pichot, il y en a fort peu. Des joueurs obsédés par le but, qui sont capables de marquer 30-35 buts par saison. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bons, mais lui, il était vraiment obsédé par le but. Et j'ai plusieurs joueurs qui sont capables de marquer des buts, mais je pense pas qu'ils marquent 35 buts dans une saison. Ils vont en marquer entre 15 et 20, ce sera déjà très bien. Mais pour l'instant, on n'a pas remplacé Nicolas Pichot sur le poste de buteur, mais même si l'an dernier on a marqué plus de buts que l'année d'avant, donc ça ne veut pas forcément dire grand chose. Avant, j'avais toujours un joueur qui marquait 40 buts, maintenant j'en ai 4 qui marquent 10 buts et ça fait presque la même chose.
Voilà, donc du coup samedi, donc match contre La Ferté Bernard, 12e du classement, on imagine bien que...
On joue dimanche, hein, pardon.
Dimanche, pardon, oui. On s'imagine bien que l'objectif pour vous, donc, c'est la victoire.
Oui, même si le classement, ça ne veut rien dire à ce moment de la saison. La Ferté, c'est une bonne équipe. Ils ont connu une période de démarrage difficile. Ils sont en train de bien se reprendre. Donc, c'est toujours une bonne équipe de DH qui a un vécu DH. Donc, bien sûr que quand on joue le match pour le gagner. Après, il n'y a surtout pas de sentiment de supériorité entre...
On regarde le classement, justement, on voit qu'il n'y a que 3 points entre vous, donc justement c'est...
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, il me semble qu'il y a 3 points, même si on a un match de retard, mais eux aussi ont un match de retard, donc voilà, il y a surtout pas un favori dans le match. Il y a un match de championnat de DH avec une équipe qui reçoit, qui a l'ambition de gagner le match à domicile, voilà, mais ça sera un match compliqué, comme beaucoup de matchs de DH cette année.
Eh bien, on vous remercie, on vous souhaite un bon courage pour cette... la suite de votre saison.
D'accord, du courage, on n'en manque pas. Merci, bon après-midi à vous.
Bon après-midi, au revoir.
Au revoir.
Voilà, on remercie encore une fois Eric Chambron d'avoir accepté notre appel et d'avoir été à notre écoute et d'avoir répondu aussi à nos questions. On va continuer, donc on va parler de Benitez, on en reparlera donc quand on reparlera donc, de la Ligue des Champions. On va passer au championnat de Ligue 1 avec Marseille qui s'est imposé 2-0 contre Saint-Etienne. Il peut dire merci à Mandanda qui a fait certainement son meilleur match depuis bien longtemps, c'est le cas de le dire. Marseille est-il dans, enfin rentré dans le championnat? Et finalement, est-ce que ce sera jusqu'à la fin de la saison ou ils vont très vite relâcher?
Bah, comme depuis le début de saison, il y aura des hauts et des bas, ça va monter, ça va descendre. Ça se trouve, le prochain match, ils vont le perdre. Ça ne sera pas illogique non plus. Hein. En plus, ils jouent ce soir là, contre Groningen au Vélodrome.
Groningen qu'ils avaient largement battu.
Ils avaient largement battu là-bas. Donc, s'ils gagnent et que Braga devait battre Liberec, la qualification elle serait quasiment faite. Donc, ça pourra les relâcher. Et après, bah, ils n'ont plus qu'à gagner dimanche.
Parce que c'est vrai qu'en Ligue Europa, les Marseillais ont peu de chance. Hein. Match contre Liberec qui domine et
ils ont perdu.
Ils perdent. Braga, où ils avaient dominé une bonne partie du match, il me semble, mais ils avaient réussi à en perdre un aussi.
Perdre de match aller. Après, surtout qu'après, ils jouent Liberec au match retour là-bas.
Match important.
Marseille va faire de bons matchs, va faire des matchs pourris. Il va y avoir des hauts, des bas. Et ça sera jusqu'à la fin de la saison. Ils vont pas être réguliers. Ça sera l'image de leur début de saison.
Mais après, ils peuvent finir dans les 6 premiers.
Ils ont très bien joué contre Saint-Etienne.
Ils ont un effectif quand même pour finir dans les 6 premiers.
Un effectif. Mais
oui, après, voilà,
est-ce que vous pensez qu'ils vont terminer dans les 6 premiers? Pour moi, ils ne termineront pas dans les 6 premiers. Ça manque d'envie, contrairement à des équipes comme Caen, qui figurent certes 3e, mais pour moi, Caen comme Nice feront en tout cas peuvent et méritent plus que Marseille de faire partie du top 6.
Marseille sera trop irrégulier et ne pourra pas accéder au top 6.
Et on va parler maintenant du bas de classement. Le GFCA, donc l'équipe du Gazélec d'Ajaccio, est-il plus fort que Bastia? Victoire 2-1 à Bastia, à Furiani, dans un stade plutôt vide, je trouve.
Après, c'est pas le même.
Il y a une interdiction de faire venir les supporters du Gazélec, donc c'est un peu normal.
Ah, ça, c'était comme sur toutes les pelouses.
Ouais, ben... enfin, là, même s'il n'y aurait pas eu les attentats, à mon avis, les supporters d'Ajaccio n'auraient pas pu se déplacer à Bastia.
L'année dernière, il y avait le derby Ajaccio-Ajaccio. Hein.
C'est pas le même genre que Bastia contre une équipe d'Ajaccio.
C'est le sud Corse contre le nord de la Corse. C'est...
Le sud est pour l'instant meilleur, je crois.
Et bon, après, c'est pas le même genre de derby que Bastia contre l'AC Ajaccio. La Gazélec, c'est son il premier plus... contre Bastia.
Mais il est plus populaire.
Ah oui, maintenant Ajaccio, l'AC, ils jouent le maintien en Ligue 2.
Les supporters du GSC d'Ajaccio, c'est des supporters populaires hein, qui mettent de l'ambiance, contrairement à l'AC d'Ajaccio, sans vouloir porter atteinte aux supporters de l'ex-club numéro 1 d'Ajaccio. C'est vrai qu'il y a de l'ambiance à Ange Casanova plutôt que dans l'autre...
Qu'à François Coty. Mais pour revenir à ta question, le GFC Ajaccio est moins fort, c'est juste qu'ils sont sur une très bonne dynamique actuellement. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires même. Il y a eu un petit coup d'arrêt hier en coupe. Mais ils sont sur 4 victoires en championnat d'affilée et pourquoi pas continuer?
Voilà, pourquoi pas les voir terminer justement devant Bastia, c'est le sentiment que j'ai. Alors que
Bastia n'est pas aidé au niveau de l'arbitrage.
Aussi, mais bon, au bout de quelques matchs, on croyait déjà Ajaccio à la même hauteur que 3. Et finalement, Ajaccio aujourd'hui n'est pas dans la zone de relégation, il est même devant Bastia. Donc, Ligue des Champions avec des matchs. Donc, il y a la défaite de Lyon, 2-1 contre
la Gantoise.
Il y a la défaite de Valence qui était finalement en faveur de Lyon face au Zénith.
Fallait s'y attendre quand même. Si le Zénith veut faire un sans faute cette année, ce serait la seule équipe à le faire quand même. Et puis c'est dur d'aller gagner en Russie surtout.
C'est sûr, il fait moins 15.
C'est
aucun,
surtout.
Aucun des...
enfin, après, il gagne à Valence où il fait 40.
C'est des. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Lyon n'a pas assuré ce qu'il devait. Il avait pourtant bien commencé son match. On sait qu'il y a eu déjà des matchs avant.
Lyon a largement dominé son match. Hein. Ils ont fait 20 tirs, la Gantoise en a fait 10.
Ah oui, mais le problème de Lyon, c'est qu'à un moment donné, dans ce genre de match, tirer 20 fois au but si on n'en marque qu'un, ça sert à rien. On sait que l'enjeu, il était là. Il fallait surtout pas perdre contre la Gantoise.
Ils sont éliminés de toute compétition maintenant.
Ils sont éliminés des deux compétitions. Là, ce qui espérait avoir au moins une compétition européenne dans son stade, c'est un peu raté.
C'est peut-être ça qui a donné la trouille aux joueurs. Hein. Peut-être qu'il était trop ambitieux, hélas. Hein.
Bon, il y a eu deux matchs qu'on peut retenir. C'était le match contre le Zénith au Zénith, où les Lyonnais
ont essayé de faire du jeu.
On fait du jeu parce que pour moi, ils avaient fait des bonnes choses. Ils auraient pu accrocher le match nul.
Et contre Valence,
où ils auraient dû s'imposer. Maintenant. Le problème, c'est l'attaque. Alors justement, Jean-Michel Aulas a dit on va recruter un attaquant, un bon attaquant cet hiver.
Ils en ont déjà un.
Alors ils ont
Ça fait bien pour Beauvu et il en pour
Il en faut deux. Donc, un pour accompagner Lacazette. Donc, ça fait deux attaquants. Parce qu'on considère que Beauvu, il n'est pas encore prêt. Alors que pour moi, Beauvu est même meilleur que Lacazette depuis le début de saison.
Depuis le début de la saison, il est meilleur.
Et donc, les noms, il y a Andy Delors.
Il fait mieux d'être acheté, il partira pas quand je joue Andy... qu'il est au-dessus.
Non, mais c'est surtout qu'Andy Delors, c'est un excellent joueur, bah... c'est une forte réussite pour Caen, mais quand on parle d'un gros attaquant, pour l'instant, Andy Delors, il a marqué que 4 buts.
Oui, mais donc, enfin,
soit dit en passant, après, c'est si... pas un gros buteur, après, contrairement à...
Après, si Delors veut se battre pour l'Euro, faut qu'il aille à Lyon. Hein.
Ensuite, le deuxième, c'était André-Pierre Gignac. Bon, comme d'habitude, le salaire... convient pas au club lyonnais.
Il y a pas que le salaire.
Puis surtout il ira pas à Lyon, vu ce qu'a eu Valbuena, il va pas y retourner, sachant qu'il a dit quand même que Marseille c'est ma vie. S'il va à Lyon,
voilà, comme dans Plus belle la vie. Et dans le troisième joueur qui est visé, c'est l'attaquant de la Gantoise qui a inscrit énormément de buts. Il paraît qu'il est excellent.
C'est De Poitre.
Mais bon, voilà, De Poitre. Mais bon, c'est pas un nom. Alors qu'il parlait d'un nom.
Enfin, surtout qu'il recrute la Gantoise parce qu'il a marqué contre Lyon.
En tout cas. Il marque des buts. Est-ce que c'est une solution? Maintenant, le prix du joueur est estimé donc à 20 millions d'euros. C'est trop excessif pour Lyon.
Déjà, la première erreur de Lyon, c'est d'avoir acheté un joueur comme Beauvu s'ils ne font pas jouer.
C'est une erreur de ne pas le faire jouer, justement.
Il joue parce que Fekir est blessé, oui. Fekir ne serait pas blessé, il ferait banquette.
Aujourd'hui, il y a un problème en défense. Mbivoy, c'est un raté à 100%. Au milieu de terrain, on n'arrive pas à trouver le bon milieu de terrain. Et en attaque, bah, quand vous faites jouer Beauvu, il est excellent, mais il n'a pas les joueurs qui l'aident à marquer. Et quand vous avez Lacazette, il marche les mains derrière le dos. Un seul but en Ligue des Champions quand même. Hein. Lacazette qui était comme la grande star lyonnaise, on lui augmente son salaire, on lui prolonge le contrat pour pas qu'il parte. Et
c'est une erreur de l'AS d'avoir prolongé le salaire de tous les joueurs. Ils ont pris la grosse tête.
Voilà, ils ont pris de la grosse tête là, oui.
Alors justement, on va parler de Lyon qui joue contre Montpellier. Mais avant, je termine sur la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qualifié, il s'est imposé 5-0 à Malmö. Que dire, bravo au PSG. Et puis ensuite, l'autre match, enfin les deux autres matchs, j'ai envie de dire, il y a la Juve qui s'est imposée contre City.
Et City, ça va très très mal. Défaite ce week-end 4-1 à domicile contre Liverpool.
Et puis il y a Manchester United a fait 0-0 contre le PSV. C'est le Real de Madrid qui menait 3-0 contre le Shakhtar. Résultat final, 4-0, pardon. Résultat à la fin, c'est 4-3. Benitez montre encore une fois que défensivement, son équipe ne vaut rien.
Bah, Varane s'est blessé, donc.
Heureusement que le Shakhtar s'est pas réveillé plus tôt, hein, il perdait le match.
Il le perdait.
Imagine le Shakhtar avec les Luis Adriano, les Douglas Costa.
Alors. Quand on voit qu'on a viré Ancelotti, on récupère Benitez. Depuis que Benitez est là, il n'y a rien de fait. Il s'est même mis les attaquants sur le dos. Et qu'en plus, quand on parle de limoger Benitez, le premier nom qu'on entend, c'est Zidane. Ça fait un peu peur pour le Real de Madrid parce que là, ils iraient droit en deuxième division.
Non, le Zidane serait un choix intéressant parce qu'il a tout le vestiaire est avec lui.
Mais pour moi c'est pas le choix pour le Real. Le choix c'était il fallait pas virer Ancelotti et comme ça.
Mais le but de Pérez, de Florentino Pérez, c'est de gagner des titres. Et dès qu'il y en a un entraîneur qui l'a pas, il est viré. C'est ce qui va se passer à Benitez, c'est ce qui va sûrement se passer si Zidane est pris, s'il gagne rien, Zidane il serait licencié tout pareil.
Et pour moi Zidane ne remportera rien, enfin en tout cas pas tout de suite. Avec le Real, il faut acquérir de l'expérience et l'expérience on l'acquiert pas en troisième division avec l'équipe B. Du Real de Madrid, pas dans un club aussi UP. C'est comme si Nasser Al-Khelaifi donnait les clés de l'équipe 1 à Jean-Louis Gasset.
C'est Jean-Louis Gasset qui fait l'équipe.
Oui, mais non, mais l'entraîneur c'est quand même Laurent Blanc.
Ouais, mais c'est Jean-Louis Gasset qui fait l'équipe.
Ça, c'est un choix dans les grands clubs qu'on fait pas.
Claude Makélélé a commencé à Bastia et il s'est totalement raté.
Voilà, donc ce serait à prendre un risque pour l'ex-adjoint d'Ancelotti. Alors on va terminer maintenant donc sur la Ligue 1 avec des pronostics. Lyon-Montpellier, la cote de Lyon est à 1,55, la victoire de Montpellier à 6,50 et le match nul à 4. C'est pour ça qu'on vous parle des cotes aujourd'hui parce que les cotes sont très intéressantes. Alors, pronostics.
Montpellier.
Match nul.
Pour moi, avec la défaite de Lyon dernièrement contre la Gantoise, Montpellier a une grosse carte à jouer et la cote à 6,50, elle est intéressante, je peux vous le dire. Leicester qui affronte Manchester United. Et là, c'est pareil, c'est peu souvent qu'on voit ça en première ligue. La cote de l'équipe qui reçoit est à 3,10 pour une victoire, 3,20 pour le nul et 2,15 pour United. Pour moi, ce serait Leicester qui s'imposerait. Et là, la cote, encore une fois, elle est intéressante.
Match nul.
Manchester.
Ensuite, donc le Bayern qui joue la Hertha Berlin. Donc Bayern de Munich 1,07. La Hertha est à 20 euros. Bon.
Pourquoi pas une surprise du Hertha Berlin ? On ne sait pas. Ils font un très bon début de saison.
Une petite pièce. Pour moi, ce serait donc le Bayern qui s'imposerait.
Oui.
Dans un match donc, où tout peut arriver, là aussi, c'est Milan qui affronte la Sampdoria. 1,57 pour Milan, 3,40 pour le nul et 6 pour la Samp. Moi, je vois bien le match nul.
Match nul.
La Samp.
Ensuite, ouais. Là, c'est un match intéressant parce que les cotes sont très proches. 2,35 pour Toulouse, 3,25 le nul et 2,90 pour Nice. Moi, je miserais bien sur les 2,90 pour Nice. Ça serait vraiment une bonne affaire puisque les Niçois sont sur une bonne lancée et que le TFC
est à la ramasse.
Est à la ramasse. Donc, pour moi, ce serait victoire de Nice ce week-end.
Nice, pour moi.
Oui, Nice aussi.
Le Barça qui affronte la Real Sociedad. Donc, comme avec le Bayern, c'est 1,07 pour le Barça, 9,25 pour le match nul. Et un peu moins quand même pour la Real Sociedad, mais 18. Victoire du Barça sans problème, normalement.
A priori.
Match nul.
Et puis, on va terminer donc sur la grosse cote du week-end. Hein, si vous avez envie de parier 1 euro sur l'équipe la plus cotée. Alors misez sur 3 qui est à 25 euros contre le PSG qui est déjà à 1,07 lui aussi. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, les paris sont intéressants pour ce week-end. C'est pour ça qu'on vous montre les cotes pour la première fois d'ailleurs cette saison.
Et depuis le début de l'émission.
Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous passerez donc un bon week-end. On se revoit dans 2 semaines parce qu'il y a la COP21 donc ces 2 prochaines semaines. Donc ce sera non-stop sur Fréquencié et nous ne pourrons donc pas assurer l'émission ces 2 prochaines semaines. Donc on se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle émission Parlons Foot. C'était sur Fréquencié 97.9 FM. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.